Voilà. Oui, ça va. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
Aggredisci.
Passata forte. Che fai?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa chiedisci? Come fa chiedisci?
Bonjour à toutes et à tous les cinéphiles du vendredi, bienvenue dans le Cinémascope, le magazine qui ausculte le cinéma en Sud-Ardèche. Un Cinémascope spécial aujourd'hui, je me sens bien seul dans le studio, heureusement qu'il y a Sylvain, salut Sylvain.
Salut.
À l'occasion de la sortie en salle du film Rabia de Marek Engelhardt, on vous rediffuse l'interview réalisée par Léna et René pendant les dernières rencontres des cinémas d'Europe. À toi Léna.
Alors René, je te laisse la parole pour ta première question.
Alors oui, j'aimerais pour commencer que vous nous expliquiez comment est née votre intention de faire un film sur un sujet aussi difficile à aborder.
Alors déjà pour raconter un tout petit peu de quoi parle le film, c'est un film qui raconte la trajectoire d'une jeune Française qui part faire le djihad en Syrie, qui se retrouve enfermée dans une maison de femmes. Sur place. Et l'idée de faire ce film ou l'envie de faire ce film est née au moment où j'ai appris l'existence de ces maisons de femmes que l'État islamique a installées en Syrie pour accueillir les milliers et les milliers de femmes qui sont venues faire le djihad et se marier aux combattants, parce que le but de ces maisons, c'était des maisons assez étranges, une sorte de mélange entre marché à femmes, bordel et auberge de jeunesse, dans lesquelles elles restaient jusqu'à ce que, lors des séances de speed dating, elles rencontraient des hommes et se mariaient avec. Et je m'étais toujours demandé, parce qu'on n'en parlait pas dans la presse, ce que faisaient les femmes là-bas. Donc, pour contextualiser, donc entre 2014 et 2017, il y a 40 000 jeunes de tous les coins du monde partis faire leur djihad en Syrie. Donc on a beaucoup entendu des combattants, on a vu des films, mais on a rarement ou jamais parlé de ce qui se passe avec les femmes sur place. Et donc j'avais envie de jeter un peu de lumière sur cette zone d'ombre avec mon film.
Et dans le film a quelquefois des aspects de documentaire. Comment vous êtes-vous documenté sur ces femmes, sur ces maisons, sur ce qui s'y passe? Est-ce que vous avez, comment vous avez tourné aussi ces images qui ont l'air très réalistes?
Donc tout le film est basé sur les récits des femmes avec qui j'ai parlé. Ce sont des jeunes femmes rentrées de Syrie qui étaient parties là-bas pour faire leur djihad, et on a beaucoup discuté, et c'est grâce à elles que j'ai trouvé toute la trame narrative du scénario. Donc il y a rien d'inventé. Donc il y a une base comme ça très documentaire dans le film. Mais j'ai décidé, parce que c'est un lieu qui a jamais été filmé, qui ne peut pas être filmé, d'en faire une fiction pour avoir la liberté de raconter cette histoire-là d'une manière qui est plus universelle, pour m'éloigner de l'islam, parce que au fur et à mesure des rencontres, j'ai compris que cette envie de partir n'avait rien à voir avec la religion, que la religion finalement était un prétexte pour ces jeunes déjà de partir d'une existence, d'une souffrance souvent sans forcément exactement se projeter dans ce vers quoi ils allaient. Et voilà.
Mais vous avez parlé de la dimension documentaire du film. Il y a aussi une dimension fictive. Et ce qui est intéressant, c'est l'équilibre entre les deux. Comment est-ce qu'on peut arriver dans un film à dire à la fois être factuel sur un problème de société et tout en étant dans la fiction? Ça c'est difficile. Comment vous avez fait pour maintenir cet équilibre? Moi, je connais la réponse.
Pour maintenir l'équilibre, pour être à la fois dans le dans les faits réels, mais
tout en faisant un film de fiction, tout en racontant une histoire,
En essayant de se poser les questions du regard, de mon regard sur ce que j'ai entendu, et de filtrer en fonction de ce qui moi me semble important là-dedans, ce que moi j'ai envie de raconter, quel est mon point de vue là-dessus et Et comme je disais, c'était ce qui est important pour moi, c'est cette parallèle avec, en fait, de ne pas parler de Daesh, mais de parler à travers Daesh d'autres systèmes totalitaires et du fonctionnement même des systèmes totalitaires. Parce que ces maisons, ça s'appelle les Madafa, moi me font penser aux Lebensborn, donc les pouponnières nazies qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, recevaient des femmes blondes aux yeux bleus pour agrandir la race pure. Chez Daesh, ça s'appelait agrandir la Ouma. C'est le même principe, cette envie, cette utopie de prendre le pouvoir sur le monde un jour. Donc, et tout ça via un système parfaitement pensé dans lequel le corps de la femme est soumis à un plan de guerre, d'une certaine manière, donc qui devient une marchandise.
Mais il y a aussi, ce qui est très important dans le film, un réel travail de caractérisation sur les personnages. C'est ça que je voulais, c'est là que je voulais en venir. Mmh. Le personnage de Jessica, qui ne s'appelle plus Jessica, et de Madame, il y a une vraie étude de personnages. Là, vous avez fait un gros travail d'écriture.
Oui, les personnages, enfin, sont basés sur ce qu'on m'a raconté sur la directrice de cette maison, qui est une Marocaine, qui avait beaucoup de pouvoir à l'intérieur de ce système, beaucoup trop, une femme très très violente, qui a elle seule pensé ce système de soumission des femmes par une femme, chose qui moi m'a beaucoup étonnée, parce que pour moi Daesh c'est un système d'hommes dans lesquels régnaient les hommes, et de voir qu'à l'intérieur de ça il y a une femme qui est presque pire que les autres hommes, je trouvais extrêmement intéressant et d'un point de vue féministe très important à raconter, parce qu'on avait les récits des jeunes femmes devant les tribunaux qui disaient « Ah bah moi je savais pas où j'allais, j'étais amoureuse, donc j'y suis allée. » et en fait, quand on leur parle, on se rend compte que c'est pas vrai du tout, qu'elles étaient aussi radicalisées que les hommes, qu'elles savaient aussi bien que les hommes où elles allaient, ce qui se passait là-bas, pourquoi ça se passait. Et il y en avait même qui partaient avec leurs enfants en laissant leur mari à la maison. Donc je pense que c'est quelque chose qui... Je pense que le mal n'est pas genré, et que quand l'humain est mis dans la condition de devenir un monstre, peu importe si c'est un homme ou une femme, il le fait. Donc c'est important de le montrer, ça aussi.
Oui, c'était très intéressant justement de voir cette, comme vous disiez, cette domination par la femme sur les autres femmes, parce qu'on a beaucoup entendu parler de Daesh et de l'État islamique, mais rarement de ces femmes. Et du coup, je rajouterais juste à titre documentaire que cette madame dans le film existe vraiment. Mm-hmm. Elle est même appelée aujourd'hui, je crois, la veuve noire. Elle est condamnée pour... en France, je crois qu'il y a une plainte de crime contre l'humanité contre elle. Donc c'est vraiment ça. Basé sur un personnage réel. Mmh. Et je voulais revenir sur le fait... tout à l'heure, vous souligniez que vous vouliez vous éloigner juste de la dimension de la radicalisation islamique et de ramener ça à une dimension plus universelle.
C'est ça.
Et moi, ça m'a rappelé un film que j'ai vu il y a de nombreuses années qui s'appelle La religieuse... Je sais plus de qui est
Jacques
le film,
Rivette.
J'avoue, mais c'est basé
Jacques
sur le roman de Diderot.
Jacques Rivette.
Jacques Rivette, merci René. Et qui parle de l'endoctrinement et de la domination, mais à l'époque du catholicisme, de l'Église.
18e siècle.
Et là, je retrouvais ces mécanismes d'humiliation entre ces deux femmes, etc. Et je trouvais très intéressant tout le travail psychologique sur la manipulation entre Madame et Jessica, parce que au départ, donc pour les auditeurs, je précise juste que donc elles sont deux femmes arrivées dans cette maison, Jessica et son amie,
deux meilleures amies,
et à l'origine, c'est l'autre meilleure amie, je crois, qui était un peu plus motivée par le voyage, et Jessica qui était un peu plus sceptique. Et donc Jessica, au début, elle va montrer plus de signes de résistance. Mmh. Et de ce fait-là, elle va aussi... prendre des coups de bâton, en fait, au sens propre, parce qu'elle résiste. Et finalement, sa technique, ça va être d'utiliser le système pour se retourner. Bah, au début, elle ne se retourne pas contre lui, en fait. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'au début, c'est elle qui se fait battre. Et pour justement sortir de cette situation, elle devient un peu la préférée de madame. Et c'était intéressant de voir ce retournement de situation.
Là, je rebondis sur ce que tu viens de dire.
Il ne faut pas tout spoiler non plus.
Pardon.
mais il y a quelque chose...
Mais ce mouvement est important.
Il y a quelque chose de capital là-dedans, qui est de l'ordre de la relation maître-esclave, telle que le philosophe Hegel a développé ça dans la phénoménologie de l'esprit. Oui. C'est exactement ça.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est très fort. Oui.
Mais est-ce que vous voulez nous dire deux mots justement sur ce jeu de rôle entre Madame et Jessica, sur comment vous avez construit la psychologie des personnages ?
Ce que j'ai cherché à explorer, et je ne suis pas allée du tout aussi loin que j'avais envie d'aller, mais ce qui m'intéresse, c'est cette question de retournement, comment ça se fait quand on entre dans une idéologie comme ça, par quel biais, parce que pour moi c'est un système sectaire, donc et les sectes travaillent souvent d'une manière très très similaire, d'essayer par exemple de couper tous les liens émotionnels, sociaux d'un individu, donc complètement l'isoler pour ensuite créer une sorte de vide émotionnel pour ensuite le dominer entièrement, et donc enfermer ces filles-là dans un huis clos, les éloigner très très de leur pays natal, de leur famille, leur enlever leur passeport, leur téléphone, les photos de leur famille, tout ça fait partie de cette stratégie-là, de les couper de leur vie, de faire table rase, et comme ça de complètement les remplir avec une idéologie qui dans le contenu est complètement secondaire, en fait c'est une pensée binaire, ça peut être c'est nous on est les bons, eux c'est les mauvais, ça peut être
manichéiste,
les juifs, ça peut être les roux, ça peut être enfin vraiment il y a aucune importance par rapport à ça. Et ce que moi je trouve intéressant, c'est ce que souvent ce retournement-là se fait face à une autorité, donc à une personne, soit un gourou de secte, soit un leader militaire, soit un professeur de yoga récemment. Donc il peut y avoir des... je pense qu'à chaque fois cette figure d'autorité répond à des besoins de l'individu, à quelque chose qui fait qu'il s'attache et qu'il veut devenir comme l'autre, qu'il veut avoir l'amour de l'autre, qu'il veut avoir la reconnaissance de l'autre. Et puis une fois retourné, je pense qu'il y a le pouvoir qui entre en jeu. En tout cas, dans le film, c'est comme ça. Et je pense souvent dans la réalité aussi qu'à partir du moment où on gravit les échelons dans un système et on gagne en pouvoir, en reconnaissance, il y a une sorte de soif de pouvoir. Je pense que l'homme aime cette position-là de supériorité. Il y a une sorte d'addiction à ça qui fait qu'il veut déjà maintenir cette position de pouvoir ou l'agrandir. Donc ça c'est une partie des choses. L'autre, c'est donc j'ai essayé de travailler sur plusieurs registres, à la fois psychologique d'un lien mère-fille, après le pouvoir, donc quelque chose de plus sociétal. On la voit au début du film très soumise, très exploitée dans un travail qui certainement ne paye pas du tout et dans lequel elle doit tout donner à l'autre. Donc elle est dans le don, et puis d'être sans jamais vraiment être vue ni reconnue, et tout d'un coup elle a cette position dans la maison où elle est où tout le monde la craint, où elle a l'autorité, et donc elle profite de ça, elle aime ça aussi, elle n'est pas forcée d'aller là, nécessairement. Donc c'est intéressant de voir ça aussi. Et puis il y a Madame qui, elle, se sert de sa position pour s'enrichir. Donc il y a
ce cynisme.
Dimension aussi d'à la fois prêcher les belles choses dans une idéologie et puis derrière le dos de tout le monde, contre cette idéologie-là, finalement, juste,
retrouver son intérêt.
S'enrichir personnellement en tant qu'individu, en fait. Et je crois que ça a beaucoup été le cas et continue à être le cas chez les leaders de ce genre de système.
Alors pour filmer justement ce rapport si complexe, si toxique entre ce qu'on appelle madame, curieusement, une madame, c'est quelqu'un qui gère un bordel en français. Mais bon,
c'est pour ça qu'on l'a appelée comme ça.
Bien sûr. Et Jessica, c'est un rôle très très lourd à porter. Comment vous avez travaillé avec les actrices pour les préparer à ça?
Déjà, il fallait choisir les bonnes personnes pour, pour avoir.
Et, casting, oui.
La curiosité et l'envie de faire ça. Donc le casting est effectivement très important. Donc j'ai eu la chance de tomber sur deux comédiennes très très politisées, très engagées, très courageuses. Dans un deuxième temps, c'était un travail de documentation beaucoup. Donc Lumna Zabal qui joue la directrice, elle a de son côté déjà fait beaucoup de recherches sur ces sujets-là et notamment sur ce personnage qu'elle connaissait depuis une dizaine d'années parce que c'est quelqu'un de très connu dans le monde d'arabe. Et Megan, elle a pris dans ce que je lui ai proposé ce qui l'intéressait, ce qui correspond aussi à son rôle. Elle est moins au courant que madame, donc il y avait des choses qui étaient utiles pour elle pour nourrir son jeu. Il y a d'autres choses où c'était pas très important. Et donc ce que je trouvais intéressant, ce qu'elle a raconté l'autre jour, c'était que au bout d'un moment, je leur ai présenté des jeunes femmes revenues du Syrie qui leur ont raconté leur histoire, et je pense que ça a été un moment clé pour elles dans la construction de leur personnage. D'un côté, parce qu'il y a une responsabilité, je crois, qui vient avec la parole de l'autre, parce qu'on n'est plus juste en train d'incarner une fiction ou un personnage fictif, mais quelqu'un de réel, donc on peut... Oui, je pense que c'est autre chose pour un comédien. Elle a beaucoup parlé d'une jeune femme qui l'avait impressionnée parce qu'elle a raconté cet univers-là de manière très sensorielle. Elle parlait des odeurs, des bruits, de ce qu'elle ressentait en termes de chaud, froid, douleur. Et du coup, Megan, oui, nous racontait que c'était des informations beaucoup plus utiles pour elle que des chiffres historiques ou des faits. Même le contexte politique, parce que comme ça, elle pouvait ressentir et elle pouvait faire appel à cette mémoire sensorielle au moment où elle entrait dans le décor et elle était obligée de s'approprier avec son corps, de l'habiter avec son corps. Et donc, c'était intéressant pour moi de voir la différence aussi, qu'est-ce qui est utile pour moi en tant qu'information et qu'est-ce qui est utile pour elle dans la préparation. Donc, c'est un apprentissage aussi.
Justement, cette rencontre avec ces jeunes femmes revenues de Syrie, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Comment vous êtes rentrée en contact avec elles? Parce que c'est quand même délicat comme sujet.
Oui, très délicat. Et je l'ai abordé de manière très, très naïve au début, parce que c'est mon premier long métrage. Donc, j'avais aucune idée comment on aborde ça. Et donc, j'ai simplement écrit à l'éditeur, je crois, d'un livre qui rassemblait plusieurs récits de jeunes femmes pour demander la permission j'ai envoyé mon adresse mail pour demander la permission de contacter et de parler avec cette jeune femme. Et j'ai plus rien entendu pendant des semaines. Et puis, tout d'un coup, un soir, je reçois un texto, je crois, salut, et ça a commencé comme ça. Et cette jeune femme était étonnamment contente de parler. Elle venait de Saint-Étienne, donc pas si loin que ça, d'ici. Et donc on s'est rencontrés à Saint-Étienne. Elle m'a raconté son histoire et c'était une rencontre assez inoubliable pour moi parce que j'arrivais avec énormément de préjugés, avec un peu de colère aussi. Et je pensais pas pouvoir la comprendre. Enfin, je savais pas en fait comment, qu'est-ce que ça allait donner. Et puis au fur et à mesure de ces rencontres, cette idée-là de l'autre de l'autre qui devient un criminel, de l'autre qui est un terroriste. C'est un peu effondré dans ma tête et je me suis rendu compte, en fait, c'est un enchaînement d'événements de vie qui fait que ces femmes-là ont fait ce choix-là. Et je pense que c'est une question importante à se poser, de se dire si moi j'avais été à leur place, si j'étais née dans leur maison, avec leurs parents, avec leurs histoires. 60% de ces femmes ont été victimes de violences sexuelles. Le chiffre, la moyenne dans notre société
avant de partir,
est 15%
vous voulez dire ?
Avant de partir. Donc 15% et pas 60%. Donc c'est une grande différence, je pense que c'est pas un hasard. Donc il y a un traumatisme souvent, une fragilité, une faille psychologique dans laquelle Daesh s'enfonce, dont ils se servent. Et c'est facile à juger de l'extérieur. Quand on a grandi, moi par exemple, dans un contexte familial en sécurité totale, financière, émotionnelle. Donc voilà, je parle d'un endroit de facilité. De grande facilité. Et je pense que c'est important de se rappeler ça avant de condamner.
D'ailleurs, le personnage de Jessica a une phrase qui est très frappante. À un moment, elle dit « Là-bas, c'est-à-dire en Occident, en France, je n'existe pas. »
Moi, j'ai relevé la mémoire.
Elle dit ça. Et ça, je trouve que c'est très fort. Et, mais vous ne serez peut-être pas d'accord, mais est-ce qu'en creux, il n'y a pas dans ce film aussi un questionnement sur le fait que ces jeunes femmes, elles peuvent aller là-bas pour toutes les raisons que vous avez évoquées, mais peut-être aussi que ce qui peut jouer, c'est qu'elles n'arrivent pas à trouver en Europe une réponse à leurs questions d'ordre spirituel. Est-ce que vous pensez que ça peut jouer, ça ?
Oui, je pense que ça joue énormément. Je crois que qu'en tant que jeune aujourd'hui, c'est pas évident de trouver un sens à son existence. On est dans un monde proche du collapse écologique, proche du collapse économique, avec très peu de rêves finalement. Qu'est-ce qu'ils ont comme rêve, les jeunes ? Quelle est la révolution ? Quel est le combat qu'on peut mener quand on essaye de manifester dans la rue ? On est violemment battu par la police qui est censée nous défendre et nous protéger. Donc, comment est-ce qu'on peut changer les choses quand on se rend compte que le monde est plein d'injustices et quand on est né dans un milieu qui rend très très difficile d'accéder à une vie qui permet de rêver, qui ressemble à un rêve. Donc moi, je comprends qu'ils sont une cible facile.
Oui, et qui ce besoin aussi.
Un besoin pour tout le monde de donner du sens à son existence.
Et une sorte de réponse aux questions qu'on se pose. Mm-hmm. Quand on les voit prier, on les voit prier oui. Par moments. Ouais. Ça a l'air très sincère, je veux dire.
C'est pas
du cinéma, si j'ose dire. Si j'ose dire.
C'est du cinéma, oui. Parce que vraiment, c'était difficile pour Meghan d'apprendre les prières en arabe. C'était pas évident. Mais je pense que c'est important de souligner que un des intérêts principaux aussi de ce le secret du succès, c'est que ces idéologies arrivent avec un système très rigide et donc extrêmement rassurant de règles et de réponses. Si on appartient à cette famille-là, donc déjà on appartient tout d'un coup à une énorme famille, à plein de gens qui nous aiment, qui les aiment, pardon, et qui nous le font sentir. On sait ce qu'on fait quand on se lève le matin, on sait ce qu'on peut dire, ce qu'on doit dire, on sait avec qui faire des enfants, combien d'enfants, avec qui être ami, non ami, savoir chaque chose à faire tous les jours, et puis même savoir ce qu'on fait, ce qui nous arrive quand on meurt. Donc cette question profondément angoissante de qu'est-ce qui m'arrive quand je meurs, celle-là aussi, on a une super réponse. on va au paradis, parce que dès qu'on met les pieds sur la terre sainte du Cham, de la Syrie, on va automatiquement au paradis. Et avec ce geste de la Hijra, donc ce voyage vers la terre sainte, on ne sauve pas seulement soi-même, mais aussi 90% des personnes autour de soi, donc toute la famille et tous les amis. Donc si on y croit, c'est quand même une très très belle promesse. Ça donne envie, en fait, de se dire, c'est pas grand chose, on me donne un billet d'avion, dans 2 jours je pars et j'aurai sauvé tout le monde,
j'aurais donné un sens à ma vie, j'aurais même plus peur de la mort.
Ouais, et tout d'un coup je pense on comprend un tout petit peu mieux pourquoi autant de jeunes se sont fait embrigader, pourquoi autant de jeunes se sont dit, malgré le fait qu'ils savaient, je ne veux pas dire qu'ils ne savaient pas, ils ont vu les vidéos, ils ont vu les images de Raqqa. Après, on leur disait que c'était de la propagande, et c'était pas, il faut passer par là, faut passer par la guerre pour avoir la paix. Donc c'est une nécessité. Donc tout ça était bien enveloppé, mais j'avais envie qu'à travers le film, peut-être le spectateur, il fasse ce chemin-là que moi j'ai fait lors de mes recherches, d'approchement peut-être, de m'approcher de l'autre, d'être moins dans le jugement, plus dans la compréhension.
Oui, la compréhension, c'est ce que je voulais relever. Ce film, finalement, c'est moins une dénonciation d'un système que des clés de compréhension pour permettre une compassion. Et quand vous expliquiez ce dialogue entre les actrices et les jeunes femmes, et ben finalement votre film, c'est aussi une façon pour ces jeunes femmes d'exprimer ce qu'elles ont vécu, parce qu'en vrai ça serait très mal reçu mais ce serait très difficile de s'exprimer dans notre société avec tous les préjugés qu'il y a sur le terrorisme.
Les préjugés, mais aussi la réalité, en fait. Oui. Je pense que il faut aussi rappeler que quand on écoute les témoignages des femmes yézidis qui ont été vendues en esclaves sexuelles, les femmes des maris étaient pires que les maris. Les maris les violaient tous les jours. Donc on est quand même à un degré de violence aussi de la part de ces femmes qui rend très très difficile d'entendre cette parole-là, leur parole. Et c'est très très compliqué. Mais de décider de ne plus écouter et de ne pas avoir de dialogue et de simplement condamner et tout fermer, je pense que ça n'aide pas non plus. Je pense qu'il faut qu'on continue à parler aussi dans un but de prévention, pour prévenir les jeunes, comme pour leur montrer ça marche comme ça, ça fonctionne comme ça, essaye de pas tomber là-dedans, c'est ça les mécanismes, essaye de les comprendre. Voilà, je rébondis de cette manière-là un peu ferme parce que le mot compassion est compliqué dans ce contexte.
J'aimerais moi poser une question très concrète sur les lieux de tournage qui me semble jouer un rôle clé dans le film. Je trouve qu'ils aident énormément à la dimension dramatique du film. Où les avez-vous trouvés? Comment les avez-vous choisis? Comment les avez-vous décorés et éclairés?
Large de ces questions, vous me faites comme ça quand j'ai plus le temps. Donc on a cherché un lieu entre la Jordanie et la France. Tous les extérieurs ont été tournés en Jordanie à 1 heure de la frontière syrienne, donc c'est le plus proche qu'on a pu être. Il y a des images dans le film vraiment de Raqqa détruit, donc c'était important pour moi à un moment donné clé dans le film que je vais pas révéler là. Pour moi c'était important qu'on voit vraiment les dégâts et la réalité sur place. Et donc on a intégré quelques images d'archives ou d'un journaliste qui les a tournées le jour même, c'est le même jour que le moment dans le film. Et l'intérieur a été tourné dans une usine à tabac à Sarlat.
La magie du cinéma.
Ça. Voilà. Donc on a fait pas mal d'allers-retours entre la Jordanie et Sarlat pour ramener des objets de Jordanie pour remplir ces décors-là, bien regarder Donc avec le chef d'écho, les couleurs sur place dans ce pays, parce que les couleurs sont très très différentes, tout est différent, la patine, tout est un peu plus vécu, et la lumière aussi avec Agnès Godard, donc la chef opératrice, on a essayé de travailler sur la lumière pour la rendre réaliste, et après aussi pour donner une sens à cette lumière, pour la faire disparaître petit à petit, en accompagnant la trajectoire du personnage vers le sombre, disons, vers le, c'est une sorte de voyage du paradis à l'enfer, et donc on a tout travaillé en fonction les costumes, les couleurs, la lumière,
pour accompagner cette... Excusez-moi, je vais devoir vous interrompre car on va devoir rendre l'antenne.
Ah oui, on est des tortionnaires du timing. Je tiens quand même à ajouter que la discussion avec la réalisatrice s'est prolongée hors micro et que René lui a dit ce qu'il pensait de Rabia, un film beau et utile. Merci encore René et merci Léna pour l'interview de Marek Engelhardt que vous avez réalisé pendant les rencontres des cinémas d'Europe sur son film Rabia, le film qui est à voir en ce moment au navire à Aubenas. D'autres actualités pour terminer, d'autres actualités ciné, à noter que ce soir à 20h30 au foyer à Rosières, il y a une séance unique et spéciale du documentaire Regards croisés en présence des deux réalisateurs, John Dauvin et Gabriel Campina. C'est un plaidoyer sur le vivre ensemble et sur l'abolition des différences, un film donc sur la perception du handicap notamment. Et c'est ce soir à 20h30 avec les deux réalisateurs au foyer à Rosières. Ce soir aussi, c'est Monsieur Aznavour à Tueil, à la salle de la Vesprade, pardon, à 20h30, qui est proposée par la Maison de l'Image. La Maison de l'Image qui projette aussi le lendemain le vénéneux « Quand vient l'automne » de François Ozon, à la salle polyvalente de Lantière. Et puis, pendant ce temps-là, côté Vallée du Rhône, c'est le cinéma de Cruas et l'association Tous Ensemble à Moto, c'est Team 07, qui propose une séance événement pour redécouvrir le film The Bike Riders, film de Jeff Nichols avec Jodie Comer, Tom Hardy et Michael Shannon notamment, qui déconstruit l'une des mythologies américaines testostéronées sur la moto. C'est un film de 2023, super à aller voir, d'autant plus que vous pouvez faire un don à l'association française contre les myopathes dans le cadre du Téléthon 2024. Donc ça, c'est samedi à 17h au cinéma de Cruas. Et puis dimanche 8 à l'USAS, bah c'est un ciné-apéro à 11h, j'aime bien le concept. D'abord le film Le Moine et le Fusil, et puis après on se détend avec un petit coup à boire pour discuter du film. Et je termine mardi, toujours la Maison de l'Image et sa tournée, à 20h30 à la salle de la Pourrette de Valgorge. C'est l'ultime chance pour aller voir le dernier film de Jacques Audiard, Emilia Pérez. Voilà, vous savez tout ou presque tout sur l'actualité du cinéma. Je vous retrouve et avec d'autres chroniqueurs, j'espère, la semaine prochaine, vendredi, pour un prochain Cinémascope. Merci Sylvain pour la réalisation de cette émission et à ciao, bon ciné.